France Inter, il est 13h. Le 13-14, Bruno Duvic.
Bonjour, soyez les bienvenus. Au sommaire aujourd'hui, arrestation arbitraire, fichage généralisé, quelques 100 000 documents décrivent la répression menée par la Chine contre les Ouïghours. Vladimir Poutine n'a pas le monopole des atteintes aux droits de l'homme. Russie en guerre depuis 3 mois aujourd'hui. Deux manières de dresser le bilan de ce conflit à ce cap symbolique. La vie quotidienne qui reprend son cours en apparence à Kiev et le verrouillage de toute expression publique à propos de cette guerre en Russie. La hausse des prix alimentaires infuse dans notre vie quotidienne, elle va se voir à la cantine.
Donc aujourd'hui c'est pâté de pommes de terre, salade verte, fromage, fruits.
La facture à la cantine scolaire devrait augmenter en septembre dans beaucoup de communes. Le projet de loi à pouvoir d'achat lui se prépare. L'indexation de la réforme des retraites sur l'inflation dès la pension versée en août, c'est l'un des objectifs. À l'approche des législatives, le gouvernement avance les bonnes nouvelles mais semble décaler les autres. Le sucré avant le salé, analyse du chef du service politique de France Inter, Yael Goz, nous la soumettrons au député Éric Woerth, investi par la majorité présidentielle. Dans l'actualité également, un premier bilan du festival de Cannes à mi-parcours. Roland Garros, 15 Français sur le court aujourd'hui. Est-ce la dernière de Joe Wilfried Tsonga? 13h30, vous êtes étudiant, jeune diplômé ou salarié. Est-ce que l'engagement écologique de votre entreprise, votre poste, est important? Pourtant pour vous, nous revenons sur la rébellion des étudiants de l'école d'ingénieurs Paris Agrotech. Ils dénoncent une formation qui participe aux ravages sociaux et écologiques en cours. Dialogue entre un étudiant et le vice-président de l'association des directeurs de ressources humaines. Appelez-nous au 01 45 24 7000. Le feuilleton avec les auteurs en lice pour le prix du Livre Inter. Aujourd'hui, Julia Deck. Et dans C'est une chanson, un autre écrivain, Laurent Godet. Il choisit Damien XVI. Le 13-14, vous avez le programme. C'est parti.
France Inter. Le 13-14.
Depuis 3 mois, les diplomates et journalistes enquêtent sur les crimes de guerre russes en Ukraine et la répression de toute voix dissidente à Moscou et ailleurs. Mais l'autre géant, la Chine, continue de réprimer des centaines de milliers de personnes. La haute commissaire aux droits de l'homme de l'ONU, Michelle Bachelet, est aujourd'hui dans le Xinjiang. La Chine y est accusée de réprimer les Ouïghours, minorité musulmane du nord-ouest du pays. Bonjour Julie Pietri.
Bonjour.
14 médias internationaux, dont Le Monde en France, se sont groupés pour analyser près de 100 000 documents issus du piratage des ordinateurs de la police chinoise. Et c'est un système de répression généralisée qu'ils décrivent.
Oui, c'est un chercheur allemand spécialiste des Ouïghours qui a reçu cette masse de documents qui permet effectivement de mieux comprendre ce qui se passe dans les camps de formation professionnelle. C'est comme ça que la Chine les appelle. Ce sont parfois des familles entières de musulmans ouïghours qui y sont internés. Dans ces prisons, le menottage et la cagoule sont monnaie courante. Les prisonniers sont décrits comme des salauds ou des traîtres, comme des indépendantistes qu'il faut mater, comme des extrémistes religieux qui ont besoin d'une déradicalisation. D'après ces documents toujours, les motifs d'arrestation sont très larges, à laisser pousser sa barbe et à refuser de la couper, à porter le voile de telle année à telle année, ou encore vit dans une forte atmosphère religieuse. En cas de rébellion, de résistance, les gardiens ont le droit de tuer. À l'extérieur, les familles ne sont pas du tout tenues au courant. La répression est bien organisée et massive. Dans un district de la région de Kashgar, par exemple, près de 12% des adultes issus des minorités sont emprisonnés. C'est 64 fois plus que dans le reste de la Chine.
Et Berlin, l'Allemagne demande des éclaircissements à la Chine après ces révélations. Face à la montée en puissance de la Chine, Joe Biden tente de former une alliance dans la zone Asie-Pacifique. C'est le Quad, USA, Japon, Australie et Inde, réunis aujourd'hui à Tokyo alors que le président américain est en tournée en Asie. Les quatre envisagent d'investir 50 milliards de dollars dans des infrastructures dans la région Indo-Pacifique. Pas de grande précision sur la nature de ces investissements. En Ukraine, cela fait aujourd'hui 3 mois que la Russie est en guerre. L'armée russe a conquis Kherson et Mariupol dans le sud. Elle est plus que jamais à l'offensive dans le Donbass, dans l'est, pour établir une continuité territoriale en forme de croissant du Donbass à la Crimée. Mais à quel prix ? Même dans ses rangs. Le 25 mars dernier, Moscou admettait la mort de 1531 de ses soldats. Les services de renseignement occidentaux les estiment aujourd'hui plutôt à 15 000. Quel effet ces pertes produisent-elles en Russie ? Bonjour Sylvain Tronchet.
Bonjour Bruno.
Correspondant de France Inter en direct de Moscou, c'est difficile de répondre à la question parce que le bilan de ces 3 mois de guerre en Russie, c'est la répression de toute parole publique à propos de la guerre.
Oui, l'expression la plus claire de ce verrouillage, c'est que ce bilan que vous évoquez, Bruno, il n'a pas été actualisé depuis le 25 mars. On est sur ce chiffre toujours officiel de 1351 morts, dont tout le monde sait évidemment qu'il n'est plus à jour, mais qui est suffisant, au fond, pour justifier les enterrements que l'on voit parfois dans la presse, pour justifier les annonces de décès que publient de temps à autre les autorités. Hier, on a appris, par exemple, que le neveu du vice-ministre russe de la Défense est mort en Ukraine. Il était le commandant d'une compagnie parachutiste. La presse publie aussi des témoignages de pères qui, disent-ils, veulent s'engager après la mort de leur fils, mais la colère ou le chagrin sont complètement absents de l'espace public. Les quelques témoignages sur les réseaux sociaux de parents de marins du Moskva, par exemple, ce navire coulé en mer Noire, qui se plaignaient de ne pas savoir ce qui était arrivé à leurs enfants, ces témoignages ont vite disparu lors des guerres de Tchétchénie. Et même après, en 2014, lors du début du conflit en Ukraine, le comité des mères de soldats arrivait à faire entendre sa voix malgré la répression. Aujourd'hui, il est totalement muet et pour cause, aucun parent d'enfant mort en Ukraine n'ose l'appeler.
Sylvain Tronchet en direct de Moscou pour France Inter dans la série Répression. La peine de 9 ans de prison en régime sévère infligée au principal opposant à Vladimir Poutine, Alexei Navalny. Cette peine a été confirmée ce matin en appel. Et quelle marque ces 3 mois de conflit laissent-ils dans la capitale ukrainienne, Kiev? Nous y retrouvons en direct l'une des équipes d'envoyés spéciaux de France Inter, Nathanaël Charbonnier et Marc Garvenez. Bonjour Nathanaël.
Bonjour, bonjour à tous.
Alors à Kiev, il y a une apparence de reprise de la vie, mais en fait pas vraiment.
Oui, vous savez, ce qu'il faut comprendre, c'est que même si la vie est presque normale, eh bien les restaurants sont ouverts, les voitures roulent, vous pouvez faire vos courses, eh bien rien n'est comme avant, et cela pour une raison simple, vous ne trouvez pas une personne qui ne soit pas touchée de près ou de loin par la guerre. Et je peux vous faire la liste de toutes celles que j'ai rencontrées, et toutes vous ramènent aux conséquences de la guerre. Alexandre, 60 ans, que j'interrogeais sur l'Europe, eh bien au bout de 2 minutes, il m'expliquait que son frère et son fils se trouvent actuellement sur le front. Piotr, originaire de Kharkiv, me racontait que sa maison et sa voiture ont été détruites par une bombe à sous-munitions et qu'il doit aller vivre chez son fils. Anton, le jeune appelé et son amoureuse, m'expliquaient que cela fait 3 mois qu'ils ne s'étaient pas vus et on pouvait déjà lire dans leurs yeux l'inquiétude de savoir quand ils repartiraient au combat. Alors oui, les gestes du quotidien sont revenus. Oui, on peut profiter du soleil assis sous un arbre. Oui, on peut boire un verre à une terrasse, mais tout a changé parce que même s'ils sont courageux, la guerre blesse le cœur de tous les Ukrainiens.
Et puis, pour ces Ukrainiens, le bilan de ces 3 mois de guerre, c'est que leur pays est fracturé, Nathanaël, en 3 régions.
Tout à fait. Vous avez l'Ouest qui a peu été touché, je pense à la région de Lviv, où s'étaient réfugiés d'ailleurs les ambassades occidentales, où la vie est assez calme. Vous avez le centre avec Kiev, où après des heures sombres et des bombardements, eh bien les choses rentrent lentement dans l'ordre. Et puis vous avez enfin l'Est, le Donbass, où les combats entre les deux armées eh bien n'ont pas du tout arrêté et continuent de façon très dure.
Nathanaël Charbonnier en direct de Kiev avec Marc Garvenez pour France Inter. Plus de 14 millions d'Ukrainiens ont dû quitter leur maison ou leur appartement depuis le début de la guerre. 8 millions de déplacés à l'intérieur du pays, 6 millions et demi ont fui à l'étranger, plus de la moitié en Pologne. En France, ils sont un peu moins de 100 000, 85 000 précisément. Par ailleurs, le ministre allemand de l'économie estime aujourd'hui possible que les Européens se mettent d'accord sur un embargo sur le pétrole russe dans les jours à venir.
France Inter, le 13-14.
Voilà le chiffre du jour en France. Le coût de l'alimentation pourrait augmenter de 200 euros et plus par personne cette année en France. C'est une étude de l'assureur crédit Allianz Trade aujourd'hui. Le prix de la nourriture grimpe. Conséquence implacable, celui des cantines scolaires risque de s'alourdir à la rentrée. Le vice-président de l'Association des maires de France, Philippe Laurent, était ce matin l'invité de nos confrères de France Info. Les fournisseurs réclament aux communes une hausse du prix de vente des repas dans les cantines de 5 à 10%.
La question, c'est de savoir si on répercute tout ou partie de cette augmentation sur les familles ou si c'est la commune qui finalement finance seule cette augmentation. S'il y a augmentation, ce sera certainement au mois de septembre, pas avant. Mais il y aura des communes qui seront amenées à faire le choix d'augmenter le prix de la cantine scolaire et puis d'autres qui décideront de le financer par elles-mêmes. Mais c'est de plus en plus difficile parce que les communes elles-mêmes peuvent être en difficulté en matière de recettes. Comme vous le savez, les impôts ont été supprimés, enfin, etc. Donc c'est assez complexe comme situation, et il y aura un choix commune par commune. Nous avons évidemment demandé de manière forte et un peu solennelle l'engagement d'une discussion de fond avec le gouvernement sur les conséquences de la situation actuelle sur les finances communales.
Et ce chiffre donc de l'assureur Crédit Alliance Trade, 224 €, plus de 220 € d'augmentation par personne pour le budget de l'alimentation. Alors selon Philippe Laurent qu'on vient d'entendre, à peu près de la moitié des communes choisiront probablement d'augmenter la facture aux familles à la rentrée. En l'état, dans une circulaire de mars dernier, le gouvernement demande aux collectivités de ne pas augmenter le tarif. Alors comment faire dans ces conditions? À Limoges, on revoit les menus. Reportage de Thibaut Delmarle.
Les grands plats sortent du four, les élèves arrivent par dizaines. C'est le début du service à l'école Victor Hugo. Franck Rose dirige la cuisine.
Donc aujourd'hui, c'est pâté de pommes de terre, salade verte, fromage, fruits.
Clotilde Jalano est diététicienne, elle s'occupe des achats pour les cantines de la ville de Limoges. Et avec cette hausse des prix, environ 10%, elle est obligée de réduire la qualité de certains produits qu'elle fait livrer à Franck.
On a des références qui ont même doublé. Le cabillaud, par exemple, un poisson que les enfants aiment bien, eh ben, il a doublé. Au kilo, il est passé de 7 € à 13 €. On va prendre une autre race, une autre variété. Du hoki, du colin.
Alors on baisse les coûts, mais en cuisine, on se creuse la tête pour que les enfants se régalent le plus possible.
Par des techniques de cuisson différentes, ou par exemple du poisson, mettre du citron dessus, un petit peu de persil, des trucs, pour égayer le plat.
Et les parents sont satisfaits. Pour eux, c'est l'un des rares postes de dépenses qui n'augmente pas.
C'est vraiment bien, vu l'augmentation de la vie.
Si la ville garantit qu'il y a un prix constant pour les parents, oui, c'est toujours une bonne chose.
En plus de cette hausse des prix, les collectivités doivent aussi respecter la nouvelle loi Egalim 2. Elle devrait servir au moins 50% de produits de haute qualité ou bio. À Limoges, on sait déjà que cet objectif ne sera pas atteint cette année.
Et dans ce contexte de hausse des prix, les consommateurs regardent évidemment de très près leurs factures d'électricité et de gaz. Et de plus en plus, eh bien, ils n'hésitent pas à changer de fournisseur d'énergie. Ils en ont le droit, évidemment. Mais cela donne lieu à un nombre de litiges records. Bonjour Agnès Soubiran.
Bonjour.
Spécialiste consommation à la rédaction de France Inter. 13% de litiges en plus en un an, 150% sur 5 ans, c'est ce que dit le médiateur de l'énergie. Que se passe-t-il?
Alors les consommateurs, vous l'avez dit, n'hésitent plus à changer de fournisseur pour bénéficier d'offres plus avantageuses. Le hic, c'est justement au moment du changement. Olivier Chalon-Belval est le médiateur de l'énergie.
Vous changez de fournisseur, il doit y avoir à ce moment-là une facture de résiliation qui est émise. La loi prévoit qu'elle doit être émise dans un délai d'un mois. Certains fournisseurs ne sont pas capables d'émettre cette facture dans les délais.
Des délais non respectés, des factures contestées, car en période de confinement, il y a eu très peu de relevés de compteurs.
Les fournisseurs eux-mêmes se sont retrouvés dans des situations qui étaient quelquefois un petit peu difficiles, et certains ont eu tendance à essayer de recourir à des pratiques qui ne respectaient pas les règles législatives et réglementaires, et quelquefois, en tout cas, qui n'étaient pas très respectueuses de la relation avec leurs clients.
Et le médiateur rappelle d'ailleurs que les fournisseurs doivent informer clairement leurs clients de toute modification de contrat et des conséquences que cela peut avoir sur leurs factures.
Alors on parle fréquemment des particuliers, mais la période est difficile aussi, Agnès, pour les petites entreprises.
Oui, car Olivier Chalon-Belval souligne que les particuliers tout de même bénéficient du code de la consommation, mais pas les petites entreprises qui souffrent beaucoup en ce moment.
Un petit professionnel, il a en général dans son contrat une indemnité de résiliation anticipée, qui fait que s'il souscrit un contrat pour un an ou deux, s'il interrompt son contrat avant pour changer de fournisseur, il doit payer des indemnités de résiliation qui sont quelquefois assez importantes.
Alors donc Bruno, si vous voulez saisir le médiateur de l'énergie, vous pouvez, c'est le plus simple, aller sur le site solen.fr. On vous répondra et c'est bien sûr gratuit.
Le projet de loi pouvoir d'achat qui contient le chèque alimentaire, le bouclier tarifaire sur l'énergie, le triplement de la prime Macron, mais aussi les mesures sur la participation, l'intéressement et le dividende salarié. Ce projet de loi sera présenté en Conseil des ministres finalement juste après les législatives. Il y aura aussi l'indexation des pensions de retraite sur l'inflation. L'objectif est que cela soit en place sur la retraite de juillet qui est versée début août. Voilà pour les dépenses. Côté recettes, Dominique Seux nous apprenait ce matin sur France Inter que le rythme de la réforme des retraites pourrait être adouci. Décalage de l'âge légal de départ au rythme de 3 mois et non plus 4 par an. Bonjour Yael Goz.
Bonjour Bruno.
À l'approche des législatives, tout se passe comme si le gouvernement annonçait tout de suite les bonnes nouvelles et décaler les mauvaises.
Vous êtes plutôt sucré ou salé,
ouais,
Bruno?
C'est ça. Hein,
parce que le sucré salé en politique, c'est une expression qu'on utilise à l'Élysée, c'est quand on saupoudre et qu'après on demande l'addition, les efforts. Eh bien, vous verrez surtout du sucre d'ici à la fin juillet, si bien sûr le gouvernement passe le cap des élections. Encore 18 jours de campagne et personne, me confirme un ministre en campagne, personne n'a envie d'aller au clash sur les retraites et les 65 ans. L'affaire Abad est déjà suffisamment plombante. D'ailleurs, quand on parle des retraites, c'est pour renvoyer des négociations automne-hiver. faire. Ou alors, pour mettre du sucre sur les retraites, Olivier Dussopt, nouveau ministre du Travail, annonce que dès le 9 août, les pensions versées seront indexées sur l'inflation. Du sucre encore, avec le paquet pouvoir d'achat, vous en parliez, priorité numéro 1, martelée hier encore par la nouvelle porte-parole Olivia Grégoire.
Avec un premier projet de loi qui devrait être adopté en Conseil des ministres avant les élections législatives.
Avant donc, signal positif en pleine campagne. Mais ce matin, elle rectifie sur France 2.
Alors, simple, précis. Ce texte sera présenté en Conseil des ministres juste après, mais quelques jours après, les élections législatives.
Pourquoi pas le faire plus vite ?
On est déjà au travail.
Donc juste après, le 19 juin, c'est pas la même chose. Dans son emballement, l'exécutif a oublié une règle de base. Ce paquet pouvoir d'achat d'une quinzaine de milliards d'euros implique de rectifier le budget, donc d'avoir une commission des finances à l'Assemblée à qui soumettre le projet de loi. Impossible tant que les députés ne sont pas élus. Il faudra se contenter d'une simple communication en Conseil des ministres. Le sucre, mélangé au devoir de réserve électorale, n'a pas la même saveur.
Le pouvoir d'achat, sujet clé des législatives. Bonjour Éric Woerth.
Oui, bonjour.
Ancien ministre du budget, président de la commission des finances à l'Assemblée, candidat aux législatives, investi par la majorité présidentielle. On voit le sucre, on voit pas le sel dans les projets de réforme du gouvernement, nous disait Yaël Goz à l'instant. Vous êtes d'accord ? On le sucre pour les législatives, puis le sel, on verra après ?
Non, mais moi, je ferai pas je vendrai pas ça. C'est pas un symbole gastronomique, quoi. C'est, au fond, une réforme, c'est ni du sucre ni du sel. C'est quelque chose de nécessaire pour que justement les choses aillent mieux après. Et un système de réforme des retraites, c'est fait pour financer à terme le système de retraite, mais pas que pour ça. C'est aussi pour évidemment rectifier ce qui peut considérer être comme injuste. Ou augmenter les petites retraites, ou faire en sorte que la pénibilité soit mieux définie pour qu'on prenne en compte un certain nombre de sujets, que la durée de cotisation soit éclaircie. Enfin bref, faire que le système par répartition, qui est quelque chose de très vivant, soit adapté à la vie du moment et notamment s'équilibre financièrement, parce que la première des injustices, c'est un système déséquilibré dans le domaine de la répartition. Ça veut dire que les jeunes qui aujourd'hui cotisent pour financer les retraites et les pensions de ceux qui sont à la retraite ou qui vont la prendre, eh bien, ils n'ont pas du tout sûr d'avoir le même système de retraite par la suite. Donc ça, c'est juste pas possible.
Éric Woerth, c'est la...
Entre les générations, elle est au moins aussi importante que la justice intragénérationnelle. C'est fondamental.
Éric Woerth, c'est la défense de la réforme des retraites, mais ce qu'on voit annoncé en détail pour l'instant, c'est les mesures pouvoir d'achat côté dépenses. Côté recettes, effectivement, que doit apporter cette réforme des retraites. La tendance, Dominique Seux nous disait ce matin, c'est à alléger le rythme, ne pas donner de détails pour l'instant, à reporter à plus tard. Est-ce que ça vous inquiète ? Est-ce que vous redoutez que cette réforme soit allégée ?
Il faut qu'il y ait une nouvelle réforme des retraites, c'est fondamental. Il faut que cette réforme, elle soit comprise, qu'elle soit discutée, qu'elle soit concertée. Il me semble assez normal qu'il n'y ait pas d'éléments plus précis que ça aujourd'hui, puisque la concertation, elle n'a pas commencé. Donc on peut pas vouloir tout et son contraire. Il y a nécessairement une concertation, notamment avec les organisations syndicales, mais pas que d'ailleurs, parce que il faut aussi beaucoup discuter avec toutes les parties prenantes, notamment les entreprises. Quand on augmente l'âge de la retraite, et ce sera l'un des objectifs de cette réforme.
Et il faut aller de votre point de vue. Il faut aller de votre point de vue jusqu'à 65 ans et relativement vite.
Oui, sans doute, bien sûr. Il faut y aller avec le temps nécessaire. Ça doit être évidemment une bonne dizaine d'années. C'est très progressif, une réforme des retraites. Alors 3 mois, 4 mois, tout ça sera le fruit et les résultats de la concertation. Tout ce que je sais, c'est qu'il faut que ce soit efficace. Efficace, ça veut dire qu'on puisse garantir le financement des retraites des Français sur le moyen terme. Et ça, c'est fondamental. Si on n'arrive pas à garantir ça, ben on verra un effondrement, une érosion très rapide des pensions ou éventuellement une augmentation de cotisations. Et j'aime autant vous dire que par les temps qui courent et avec l'inflation qu'il y a, c'est évidemment pas possible.
Par contre,
que des mesures de pouvoir d'achat soient prises immédiatement, ça va de soi, puisque c'est pour essayer de prémunir notamment du choc inflationniste que nous vivons. ça ne peut pas évidemment durer.
En un mot, Éric Woerth,
la réforme possible sur l'inflation, c'est évidemment d'augmenter la croissance et par la croissance, à un moment donné, d'augmenter le pouvoir d'achat par l'augmentation des salaires. Mais l'augmentation des salaires, ça résulte de la productivité du travail.
Est-ce que la réduction des déficits est toujours une priorité? On voit Bruno Le Maire se féliciter que l'Europe suspende un an de plus les règles budgétaires. Oui. C'est une priorité la réduction des déficits pour la majorité, oui ou non?
Oui,
en un mot, s'il vous plaît.
Oui. L'autonomie en termes de finances publiques, la souveraineté financière du pays, ça ne peut être qu'une priorité.
Merci beaucoup Éric Woerth, candidat pour la majorité présidentielle à ces élections législatives. 4 ans quasiment jour pour jour après le dépôt d'une première plainte, la Cour d'appel de Paris confirme un non-lieu en faveur de Luc Besson. Le réalisateur et producteur de cinéma est accusé de viol par l'actrice Sand Van Roy. Non-lieu donc, Emmanuel Leclerc, dans ce qui est un des dossiers emblématiques de l'ère MeToo.
C'est un simulacre de justice, ont commenté les avocats de Sand Van Roy, qui ont aussitôt annoncé qu'ils se pourvoyaient en cassation. Ils ont rappelé que le cinéaste n'a jamais été confronté aux preuves matérielles, en l'occurrence les constatations photographiques réalisées à l'Hôtel Dieu à Paris au sein de l'unité médico-judiciaire la nuit qui a suivi les faits objet de la plainte dans un célèbre hôtel de la capitale, les coups, les blessures sur le corps. On sait que la plaignante avait dénoncé les 2 enquêtes successives qui se sont conclues par une ordonnance de non-lieu avec une plainte pour faux déposée contre la seconde juge d'instruction. Elle avait estimé que les éléments présents dans le dossier ne permettaient pas juridiquement d'étayer l'accusation. Enfin, il y a une demande toujours en cours de récusation de la présidente de la chambre de l'instruction, celle-là même qui a rendu l'arrêt ce matin. Sand Van Roy maintient qu'elle a eu une relation avec des actes violents répétés sous emprise professionnelle. Luc Besson, lui, a toujours évoqué une relation extra-conjugale légère et agréable. Son avocat a rappelé que la dizaine de procédures intentées contre son client s'est toujours conclue de la même façon.
Dans l'actualité judiciaire également, la demande d'aménagement de peine semi-liberté est rejetée par la Cour d'appel pour Alain Ferrandi, l'un des membres du commando qui a assassiné le préfet Erignac. 2 applications à présent très concrètes des nouvelles technologies. D'abord, puisque nous sommes à la rubrique police-justice, cette utilisation d'un deepfake par la police de Rotterdam aux Pays-Bas. Les Néerlandais présentent cela comme une première mondiale. Le deepfake, c'est cette technique qui permet de donner vie à des personnes sur une vidéo en remplaçant un visage ou une voix par un autre. On alerte souvent contre ces effets délétères. C'est une source majeure de fake news. On peut faire dire n'importe quoi à n'importe qui. Dans ce cas précis, Angélique Boin, la police néerlandaise utilise la technique pour redonner vie à un adolescent assassiné il y a près de 20 ans, diffuser un appel à témoins, bref, relancer l'enquête.
Cédar avait 13 ans. Il faisait une bataille de boules de neige avec ses copains sur un parking de Rotterdam ce samedi de février 2003. Il est alors mortellement blessé, sans doute par une balle perdue lors d'un échange entre bandes criminelles rivales. La vidéo postée par la police, qui cherche donc de nouveaux témoins, a été fabriquée sur la base d'une photo prise peu avant sa mort. Cédar était fan de foot. Sa famille a choisi un terrain de foot pour le mettre en scène. On le voit traverser la pelouse, ballon sous le bras, encadré par une haie d'honneur formée de proches et de ses copains de l'époque, certains lui tapotent amicalement l'épaule. Tous ont vieilli, pas lui, et c'est sa sœur Jeannette qui parle en fond sonore. Quelqu'un doit tout de même savoir qui a tué mon frère chéri, et c'est pour ça qu'il a été spécialement ramené à la vie pour ce film, déclare la jeune femme. Cédar pose alors son ballon et l'on entend sa voix se mêler à celle de sa sœur. Tu en sais plus, alors parle maintenant. La police néerlandaise a fait appel à l'un des meilleurs spécialistes au monde de ce type de trucage. Nous voulons toucher au cœur ceux qui savent, a expliqué sa famille. Quelques jours après la diffusion de la vidéo à la télé et sur les réseaux sociaux, la police dit avoir reçu 10 de tuyaux et a relancé l'enquête. Bruxelles, Angélique Boin, France Inter.
Des deepfakes aux satellites pour un autre usage surprenant des nouvelles technologies. Chaque année un peu plus, l'usage des satellites qui photographient la Terre en lui tournant autour se diversifie. Leur perfectionnement technique joue aussi. À quoi servent-ils? À Bonn, en Allemagne, cette semaine, Sophie Becherel, l'Agence spatiale européenne présente une série de réponses et parmi les derniers satellites lancés, il y a ceux baptisés Pléiade, tellement précis qu'ils permettent de repérer des cultures illégales.
Pléiade, c'est une série de satellites de 50 et 30 cm de résolution parmi les plus développés au monde. Lénaïque Lehors est chef de projet Pléiade Neo chez Airbus Defence and Space.
C'est des satellites qui sont sur le haut du marché, des satellites technologiques haut de gamme.
Les clients principaux qu'on peut avoir, c'est des clients qui vont faire de la cartographie. Ça peut être des Google, ça peut être des Apple, ça peut être de l'IGN en France, et puis différents gouvernements.
C'est le cas récemment de la Côte d'Ivoire. Pour le bon usage des terres, les images satellites servent aux autorités et aux ONG à cartographier les zones où il est possible de planter des cacaoyers sans nuire à l'environnement. Car les plantations illégales en sous-bois sont repérables depuis l'espace. Wendy Carrara est responsable des développements digitaux chez Airbus.
Le cacao, c'est une culture qui est très particulière parce que c'est souvent quelque chose qui s'installe sous la canopée, donc qui est plus difficile à détecter. Et en imagerie satellite, on va avoir, on va dire, des premiers indices qui vont nous laisser penser qu'il y a une activité sous la canopée. Et via différents capteurs, on va pouvoir valider en fait cette activité et permettre aux autorités locales d'intervenir et de soutenir les populations locales.
Même usage en Asie du Sud. Pour une production éthique d'huile de palme, certains industriels engagés dans la lutte contre la déforestation ont recours aux images satellites. Nestlé et Ferrero ont été les deux premières entreprises à valider le concept.
Cette information de dernière minute qui nous est donnée par l'agence France Presse, l'affaire des soupçons d'optimisation fiscale de la part de McKinsey. Une perquisition est en cours au siège français du cabinet américain. C'est ce qu'annonce donc l'agence France Presse en citant le parquet financier. À Cannes, le festival de cinéma boucle sa première semaine. Le palmarès, ce sera samedi. C'est l'heure d'un premier bilan, pourquoi pas, à mi-parcours, avec l'un des envoyés spéciaux de France Inter. Bonjour Alexis Demeyer.
Bonjour Bruno.
Vous avez vu 14 films, 14 des 21 en sélection, alors vous ne pouvez pas encore parler de tous. Le dernier en date que vous ayez vu, c'est celui des frères Dardenne, Tori et Lokita, présentés aujourd'hui. Et Alexis, sans préjuger du palmarès, vous relevez déjà quelques œuvres marquantes.
Le film qui fait le plus parler ici, c'est RMN du roumain Christian Mungiu, parce que c'est une proposition de cinéma extrêmement ambitieuse, mais aussi parce que absolument personne n'a compris la fin, et c'est bien sûr un peu frustrant. Autre film qu'on n'oubliera pas de sitôt, Ian du vétéran polonais Skolimowski, à 84 ans, il parvient à nous émouvoir avec le parcours d'un âne qui doit faire face à la cruauté des hommes. Très bon bouche à oreille également pour La femme de Tchaïkovski du dissident russe Kirill Serebrennikov, et pour Armageddon Time de l'un des plus grands cinéastes américains contemporains, j'ai nommé James Gray.
Alors il y a des œuvres marquantes, il y a des thématiques aussi qui reviennent dans plusieurs films, Alexis.
Oui, le retour à la nature, d'abord un sujet très post-confinement qui est au cœur du film belgo-italien Les Huit Montagnes et que l'on retrouve également dans Ian, RMN, mais aussi dans Frères et Sœurs d'Arnaud Desplechin et Decision to Live de Park Chan-wook. Autre grande tendance dans cette sélection 2022, la critique du libéralisme, c'est au cœur de Sans Filtre, la comédie trash du déjà palmé Ruben Olsunt, et c'est aussi très présent dans Armageddon Time. Tori et Lokita des Dardenne et RMN de Mungiu traitent pour leur part de la question migratoire. Enfin, l'anticléricalisme traverse aussi bien le film égyptien Boy from Heaven que l'iranien Les Nuits de Machad.
Alexis Demeyer en direct de Cannes, outre le film des frères Dardenne en sélection officielle aujourd'hui, et présenté celui de l'italien Mario Martonet, Nostalgia. De Cannes à Roland-Garros, bonjour Guillaume Batin.
Bonjour Bruno, bonjour à tous.
Aujourd'hui à Roland, le numéro 2 mondial, Daniil Medvedev, est sur les courts et une quinzaine de Français, et ça s'est bien passé, déjà une victoire pour Alizé Cornet.
A une brillante victoire pour son premier tour, Alizé Cornet, 32 ans, a largement dominé son adversaire, la japonaise Misaki Doi, 6-2, 6-0 dans le deuxième set en 58 petites minutes. Elle était entourée par un public parisien pas très nombreux ce matin, faut dire qu'il fait pas très chaud, 18 degrés à peine, et une petite averse à l'instant, mais elle était très heureuse de jouer sur ce court central. Elle espère bien, d'ailleurs elle l'a dit dans l'interview juste après le match, en direction de l'organisation, jouer son deuxième match ici sur le court central. Elle profite de tous les moments parce qu'elle a 32 ans, elle va probablement s'arrêter dans peu de temps, comme Joe Wilfried Tsonga qui va arrêter sa carrière tout à l'heure. Il va arrêter sa carrière s'il perd face à Kasterud, le Norvégien numéro 8 mondial. Yelena Ostapenko, c'est donc la prochaine adversaire d'Alizé Cornet, ancienne vainqueur de Roland-Garros en 2017, la Lettonne classée 13e joueuse mondiale.
Tout petit mot sur Tsonga, il n'est pas encore sur le court.
Non mais ça va pas tarder, il est dans la coulisse, là, il y a une petite averse, on est en train de préparer le terrain et ce que vous entendez c'est l'ambiance justement qui annonce l'arrivée de Joe Wilfried Tsonga à 37 ans, ancien numéro 1 français pendant de longues années, un mousquetaire qui se prépare à terminer sa carrière ici dans un gros moment sans doute plein d'émotions.
Face au Norvégien Casper Ruud, numéro 8 mondial, merci Guillaume Batin, on continue de suivre la journée. Dans un instant la météo.
Cette semaine sur France Inter, l'affaire Troadec, et dans Affaires sensibles, la fiction.
Fabrice Drouel.
Cet or, il est à moi.
à moi et à personne d'autre. C'est mon mari qui me l'a laissé. J'en veux la moitié.
Aujourd'hui, premier épisode, Mamie Renée, ou le secret de l'or perdu de la Banque de France.
Affaires sensibles.
Du lundi au vendredi sur France Inter à 15h et à 23h.
Podcasté, téléchargé sur l'application Radio France.
Voyons le temps de ce jour.
La météo, avec Air France. Cet été, envolez-vous en toute sérénité vers plus de 1000 destinations. S'envoler en toute élégance. Air France. Rendez-vous sur airfrance.fr.
Bonjour Élodie Calac.
Bonjour à tous.
Le temps est variable et plus frais.
Oui, les températures repassent un peu en dessous des normales de saison, sauf sur le sud-est. Alors comptez 15 degrés à Cherbourg, 17 à Lille et à Rennes, 18 à Bordeaux, à Toulouse, 19 degrés à Paris ou à Bourges, 22 degrés attendus à Strasbourg, à Lyon, jusqu'à 26 à Toulon ou à Ajaccio. Côté ciel, on a des nuages, des éclaircies. Alors plus de nuages sur l'ouest jusqu'à la région parisienne, à la frontière belge, avec quelques averses possibles. Quelques averses aussi sur le sud des Alpes, avec un orage. Près des Pyrénées, là, les averses sont nombreuses, c'est de la neige au-dessus de 2000 mètres. Les éclaircies, elles sont plus belles du nord-est jusqu'au nord de Rhône-Alpes. Belles éclaircies aussi pour la Côte d'Azur et elles reviennent également près de la Manche. Et puis demain, on aura des averses orageuses à l'est du Rhône, en Corse. Quelques averses aussi pour le sud-ouest et puis beaucoup de nuages sur le nord-ouest, mais seulement quelques gouttes pour la Bretagne et le Cotentin.
Élodie Calac, Météo France, il est 13h30.
France Inter, le 13-14. Bruno Duvic.
C'était le 30 avril dernier, un coup de semonce au moment de la remise des diplômes au sein d'AgroParisTech, grande école qui forme les ingénieurs spécialisés dans l'agronomie, l'agroalimentaire, la chimie, la biologie, les sciences du végétal et de l'animal. On pourrait résumer la science au service du vivant. Mais 8 étudiants de la dernière promo n'ont pas cette vision de leur école. Nous sommes plusieurs, disent-ils, à ne pas vouloir faire mine, d'être fiers et méritants d'obtenir ce diplôme après une formation qui pousse à participer aux ravages sociaux et écologiques en cours, et il continue.
Nous ne nous considérons pas comme les talents d'une planète soutenable. Nous voyons plutôt que l'agro-industrie mène une guerre aux vivants et à la paysannerie partout sur Terre.
À vous qui sentez un malaise monter sans pouvoir le nommer, nous voulons vous dire que vous n'êtes pas les seuls à trouver qu'il y a quelque chose qui cloche.
Vous craignez de faire un pas de côté parce qu'il ne ferait pas bien sur votre CV ? Mais quelle vie voulons-nous ? Un patron cynique ? Un salaire qui permet de prendre l'avion ? Un SUV électrique ? Un Fairphone et une carte de fidélité à la Biocoop ? Un burn-out à 40 ans ? Désertons avant d'être coincés par des obligations financières. Vous pouvez bifurquer maintenant.
Et ils ajoutent que nos métiers sont destructeurs. Cette vidéo a depuis 3 semaines un effet de souffle et fait écho à d'autres prises de position, d'autres étudiants ou jeunes diplômés ingénieurs, bien souvent. Alors caprice d'enfants gâtés, réflexion de jeunes gens plus éclairés et courageux que la moyenne, c'est en tout cas notre sujet jusqu'à 13h45 avec Rémi Vanel du collectif Pour un réveil écologique. Bonjour.
Bonjour, merci de l'invitation.
Est-ce que vous pouvez nous présenter votre collectif ?
Alors du coup, le collectif Pour un réveil écologique, il est né d'un manifeste en fait qui est sorti en septembre 2018,
oui,
qui dit globalement la même chose que disent les étudiants de AgroParisTech, c'est que notre système économique prend pas du tout suffisamment en compte les limites de notre planète en fait, les différentes problématiques, donc réchauffement climatique, crise de la biodiversité, épuisement des ressources, etc., et différentes pollutions en tout genre. Et on veut aller travailler pour des entreprises, mais pas pour des entreprises qui adressent pas sérieusement ce sujet-là. Et d'autre part, on veut être mieux formés aussi.
Et depuis la parution de ce manifeste, il y a eu des milliers de signatures. Bonjour Benoît Serre.
Bonjour.
Vice-président de l'Association nationale des DRH, les directeurs des ressources humaines. Comment réagissez-vous là, en entendant les étudiants d'AgroParisTech ?
En fait, je suis pas hyper étonné. Vous savez, comme DRH, moi je passe pas mal de temps dans les campus, je rencontre beaucoup d'étudiants et c'est intéressant parce que quand on passe à la phase question-réponse, j'ai 80% de questions qui sont quels sont les engagements de votre entreprise pour la planète, pour l'environnement. On voit que c'est un sujet qui travaille et je trouve que c'est très bien que la génération pousse et accélère. Oui. Les entreprises ont fait pas mal de trucs, il y a comme vous le dites, il y a encore beaucoup de choses à faire. Elles avancent. Après,
quand vous avez ces questions, est-ce que vous êtes en difficulté pour répondre parfois ?
Ça dépend de la boîte boîte dans laquelle je suis. J'ai la chance de pas avoir de difficultés pour répondre.
Ouais.
Mais c'est vrai que dans d'autres boîtes, ça va être un peu plus compliqué, j'imagine. Soit parce que ces entreprises ne s'engagent pas sur ces sujets-là, soit parce que leur activité même, en fait,
ouais,
est effectivement destructrice. Donc c'est une position très difficile à tenir parce qu'elle est aussi destructrice qu'utile à la vie d'aujourd'hui. Et j'ai bien compris que les engagements du réveil citoyen, c'est changer le mode de vie. Mais il faut comprendre que, de mon point de vue, et c'est un peu ce que j'ai pensé en écoutant AgroParisTech, c'est qu'il vaut mieux être dans ce qu'il faut changer qu'à l'extérieur, sinon ça change jamais.
Un mot, vous êtes chez L'Oréal, hein, c'est
oui,
ça Benoît
Serre,
qui est aussi l'objet de critiques sur le thème écologique parfois.
Oui, même bon, comme toujours, parce que c'est une grande entreprise, ouais. Même si c'est une entreprise, et je le dis avec beaucoup d'humilité, qui a un engagement sur ces sujets-là très fort. On a des engagements très forts sur des sites carbone neutres, on a des engagements très forts sur les tests, sur tout un tas de sujets. Depuis des années, c'est jamais assez bien. Mais je pense que, et c'est intéressant parce que les grandes entreprises, j'en suis absolument convaincu, elles ont une responsabilité très importante de montrer le chemin et de prendre le lead sur ces sujets-là. On peut pas tout attendre de l'État sur ces sujets-là.
Rémi Vanel, votre parcours à vous, alors c'était pas AgroParisTech, c'était Arts et Métiers. Le déclic, ça a été quoi?
Le déclic, ça a été... en fait, je me suis formé un peu de façon autodidacte à tous ces sujets-là, donc de limites planétaires en général. Et je me suis rendu compte qu'en fait... On nous parlait pas du tout de ces sujets-là dans notre formation et que du coup on pouvait pas les adresser à l'entreprise. Donc c'est là que je décide de m'engager à travers le collectif Programme écologique. Et depuis, on essaie de travailler avec les entreprises, différents acteurs. Et par rapport aussi au discours d'AgroParisTech, on pense que c'est complètement complémentaire en fait comme approche. Là, ils ouvrent une alternative, une autre voie, les étudiants d'AgroParisTech. Et nous, ça nous permet aussi de donner le écho à notre mouvement, de dire bah voilà. À travers ce message qui réveille en fait les entreprises en quelque sorte, ça nous permet d'en parler aujourd'hui. Et ben nous, à travers ça, on peut travailler avec les entreprises, les différents acteurs économiques, les formations.
Et justement, pour rester sur votre parcours professionnel à vous, ça a eu quelles conséquences? Vous travaillez où aujourd'hui? Comment vous avez choisi? Est-ce que vous êtes prêt à gagner moins pour être dans une entreprise qui a du sens à vos yeux?
Alors ça, oui, complètement. J'ai fait attention à l'entreprise dans laquelle je m'engageais, quel est un modèle économique plutôt adapté aux convictions que j'ai, même si forcément elle a encore beaucoup de travail à faire.
Et c'est quoi concrètement?
C'est dans l'énergie. Je travaille avec des sites industriels. Donc typiquement, on peut travailler avec L'Oréal pour décarboner leur approvisionnement en énergie. Et donc, ces questions-là aussi, on les a adressées au sein du collectif à travers une étude qu'on a commandée à Harris Interactive. Et en fait, on a vu on a fait une étude sur 2000 personnes, un peu plus de 2000 personnes, auprès des jeunes de 18 à 30 ans. Et on a vu que c'est cette envie de s'engager à travers une entreprise qui adresse sérieusement ces sujets est vraiment partagée. Il y a, comme chiffre un peu impactant de l'étude, on a 2 jeunes sur 3 qui se disent prêts à renoncer, à postuler dans une entreprise qui ne prendrait pas suffisamment en compte les enjeux environnementaux.
Ça, vous le constatez, Benoît Serre ?
Oui, on le constate de deux types. D'abord, effectivement, c'est des questions qu'on a, je l'ai évoqué tout à l'heure quand je rencontre des étudiants des campus, mais même dans les entretiens de recrutement. Et ça, c'est pas totalement nouveau qu'on ait cette question d'entretien de recrutement, notamment sur les questions d'environnement, et maintenant, post-pandémie, sur la responsabilité sociale de l'entreprise.
Oui.
En revanche...
Mais avec des gens prêts à renoncer, c'est-à-dire qui vous font vous-même passer un entretien d'embauche, quasiment.
Oui, d'une certaine manière, des gens qui vous demandent des éléments de preuve. Alors, bon, chez L'Oréal, on en a, tant mieux, mais ce qui est intéressant, c'est une évolution, et ça en vient en relais de ce que vous dites, c'est qu'avant... Ces gens-là, les jeunes nous posaient des questions à l'entrée, puis après, ils s'arrangeaient de la vérité dans l'entreprise. Aujourd'hui, c'est plus le cas. C'est-à-dire que quand ils sont dans l'entreprise, ils continuent à vous challenger sur ces sujets. Tout le temps.
Au risque, enfin, quitte à démissionner, je dis au risque.
Quitte à démissionner, ou en tout cas, ils vous mettent une forme de pression que je trouve plutôt positive. Moi, je suis tout à fait convaincu que c'est de la mathématique. La génération qui monte un jour sera plus nombreuse que la génération qui descend. Et donc, les entreprises bougeront là-dessus. Après, il y a malheureusement, on peut le déplorer, c'est un peu la limite, je trouve, de l'exercice d'AgroParisTech. Pas que ça permet des réveils, mais c'est qu'à un moment, on va pas tout changer en même temps, les modèles économiques, les modèles sociaux. C'est ça que j'ai un peu trouvé un peu limite. C'est-à-dire qu'à un moment, le discours est plus politique. Moi, ce qui est intéressant, c'est que les générations poussent sur la prise de conscience environnementale plus fortement les entreprises. Pas à déclarer, mais à agir.
AgroParisTech, c'est un discours de rupture avec le capitalisme. Vous allez aussi loin que ça, Rémi Vanel, y compris d'ailleurs, ils disent on va arrêter d'intervenir sur les réseaux sociaux parce qu'on est contre la numérisation de la vie, facteur d'isolement, etc., etc. Est-ce que vous les trouvez radicaux, les camarades de ParisTech, ou est-ce que vous êtes sur la même tendance?
On est tout à fait, enfin, encore une fois, sur le constat, on est tout à fait d'accord, et nous aussi, à notre manière, on essaie d'être radical, donc d'adresser vraiment ces problématiques très concrètement, donc à la source du sujet. Donc on a différentes manières d'apprendre le problème, mais on pense que c'est vraiment des approches complémentaires. Les deux sont essentielles.
Jérôme au standard, bonjour Jérôme.
Oui, bonjour Monsieur Dubic, bonjour à tous.
Nous vous écoutons.
Moi j'ai quitté l'industrie il y a 5 ans pour lancer mon activité en charpente, et en fait la spécificité c'est que cette industrie, donc j'étais dans l'industrie du bois, avait des des systèmes d'approvisionnement et d'écoulement de ces produits assez peu éthiques. Et moi, j'ai décidé de faire de la charpente bas carbone. Donc, je m'approvisionne 50 km autour du chantier. Et, je taille à la hache et je lève à la main.
Est-ce que ça a eu des conséquences je ne sais pas, est-ce que vous gagnez moins bien votre vie? Est-ce que c'est plus compliqué?
Alors oui, clairement. Mais bon, on a des conditions de travail assez, comment dire, assez bénéfiques. On va dire ça comme ça.
Benoît Serre, alors là, on a cet exemple de Jérôme. Bien souvent, les ingénieurs qu'on entend en ce moment, enfin justement, sont des ingénieurs, sont des jeunes diplômés. Ce sont des gens qui ont pris le pouvoir en partie sur le marché du travail parce que ils ont les diplômes. Il y a pénurie d'effectifs dans certains secteurs. C'est le moment ou jamais pour eux de peser.
C'est ce que je pense. C'est-à-dire que le marché de l'emploi, il s'est retourné. Hein, on est clairement joué dans un marché d'employeurs. On connaissait un marché d'employeurs avant. Et notamment, vous savez que la France est assez pauvre en nombre d'ingénieurs. En fait, il n'y en a pas assez. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont recruté avant même la sortie de l'école. Ils sont déjà recrutés. Et donc, je pense que justement, les compétences qu'ils ont acquises, les formations qu'ils ont suivies, sont autant de moyens, de compétences, de connaissances qui permettent de faire évoluer les modèles de production, faire évoluer les entreprises et faire accepter l'idée que oui, ça coûte peut-être un tout petit peu plus cher à produire, mais ça a du sens sur un plan environnemental. Donc je préfère les avoir à l'intérieur qu'à l'extérieur. C'est un peu la limite que j'indiquais tout à l'heure pour AgroParisTech. Et juste un dernier point. L'année dernière, quand on avait fait l'université de la NDRH à Marseille, il y avait 500 DRH. On est convaincu que c'est un vrai sujet. On avait fait venir, alors c'était pas vous, la prochaine fois ce sera vous, un autre collectif d'étudiants pour la planète qui était venue, parce que je pense que c'est important d'équilibrer les politiques sociales et les politiques environnementales dans les entreprises.
Rémi Vanel, pourquoi ne pas changer de l'intérieur? Au fond, le reproche qu'on entend depuis cette vidéo d'AgroParisTech, c'est un peu sur le thème d'enfants gâtés, et puis on peut changer les choses de l'intérieur, on peut miser sur le progrès technique. C'est un peu, j'ai l'impression, le regard que pose un Emmanuel Macron, par exemple, sur la transition écologique, miser sur le produit technique, par exemple, le progrès technique, par exemple, pour développer l'hydrogène. Est-ce que il n'y a pas une piste ici, miser sur les progrès de la technique qui nous permettront de répondre aussi au défi du changement climatique?
Alors, juste déjà pour répondre à Monsieur Serre, du coup, sur l'aspect changer de l'intérieur, on a quand même des limites. Parce que même si on rentre aujourd'hui, donc moi j'ai 23 ans, je rentre dans une entreprise, c'est quand même très compliqué de changer dès le début parce qu'on n'a pas beaucoup de responsabilités. Et on a quand même des discours qui ne sont pas forcément toujours entendus. Et dès qu'on veut être un peu radicaux encore dans notre approche, eh ben on se rend compte qu'il y a quand même des sujets de responsabilité. C'est pour ça que des acteurs de la société civile comme le collectif Point avec Logique, qui font des études, par exemple, on a fait des études sectorielles sur différentes types d'entreprises pour savoir un peu quels étaient leurs réels engagements. On a sorti des analyses un peu critiques sur ce sujet-là, qui permettent du coup d'échanger avec ces acteurs-là, mais voilà, de donner des outils aux étudiants pour choisir leur entreprise derrière. Ça aussi, ça permet d'avancer. C'est quand même compliqué d'avancer très fort de l'intérieur. Et ensuite, sur l'approche technologique, donc là, je suis arrivé avec mes résumés du rapport du GIEC. Là,
les 10 points clés du rapport du GIEC.
Qu'on a
trajectoire d'émissions, urgence à agir, répartition des émissions, etc.
C'est ça, on les a affichés dans le métro parisien la semaine dernière, ce qui est très chouette de la part de Média Transport. Du coup, là, on voit qu'il y a quand même des limites à la technologie. On parle souvent d'effets rebonds. Quand on adresse des sujets comme l'hydrogène, par exemple l'avion à hydrogène, quand on dit qu'on va en 2025, 2030, 2035 avoir l'avion à hydrogène, déjà c'est quelque chose qui est très compliqué, et même l'industrie, l'aéronautique le dit, ça va être peut-être pas faisable en 2035. Et en plus, si on n'adresse pas la problématique de façon un peu globale, donc c'est-à-dire les émissions absolues de ce secteur-là, et qu'on ne considère pas la croissance du nombre de personnes qui se transportent en avion, et ben en fait on n'adresse pas sérieusement le sujet. On parle juste d'efficacité. Et là encore, du coup, une fois, la technologie ne répond pas à cet enjeu-là. Juste avant, pour réduire les émissions du secteur de l'aviation, il va falloir juste avoir moins de personnes qui prennent l'avion tous les jours.
Donc vous nous dites qu'on ne peut pas miser que sur la technologie. Il y a aussi un côté décroissant dans votre propos.
Oui, il y a certaines entreprises. Ben voilà, quand on pense à l'industrie du oil and gas, clairement le
pétrole et le gaz.
Le pétrole et le gaz, pardon. L'IEA, l'Agence internationale de l'énergie, dit clairement il ne faut plus de nouveaux investissements dans le pétrole après 2021. Donc oui, il y a des industries qui vont devoir complètement transitionner et leur business model, leur modèle économique va devoir complètement changer.
J'ai envie de retourner la question, Benoît Serre. Il y a des entreprises, des secteurs où vous ne travailleriez pas, vous, aujourd'hui?
Je crois, alors, je ne suis pas sûr que j'irais par exemple dans une entreprise d'armement. Vous voyez? Par contre, pour rebondir sur ce qui a été dit là-dessus...
Une entreprise de pétrole?
Moi, c'est un petit peu par déformation professionnelle. Ouais. Moi, je demande quand même. Je ne nie pas. Et j'ai trouvé le document que vous m'avez donné vraiment intéressant parce que justement, il pose bien les sujets. Vous donnez un exemple. Chez L'Oréal, on est en train de faire passer tout le monde à la fresque du climat parce qu'il y a une phase de prise de conscience. Donc, c'est très important. En revanche, je peux pas écarter l'idée quand même que derrière tout ça, toutes ces entreprises, qu'on les aime ou qu'on les aime pas, qu'elles produisent bien ou mal, il y a des milliers d'emplois. Et donc, je trouverais dangereux de pas avoir la balance, non pas que, je veux dire, c'est pas l'environnement contre l'emploi, l'emploi contre l'environnement. Il faut faire très attention parce que on peut créer des drames sociaux si on va trop vite ou trop radical. Pour l'avoir vu, je vous assure que c'est un élément très très important à prendre en considération.
La fresque du climat, en un tout petit mot, c'est quoi et quel avantage pour les salariés?
Ben, je trouve que la fresque du climat, ça vient du GIEC, c'est vous le spécialiste.
Non, c'est une association.
Et qui montre comment, finalement, tous ces éléments immédiats ou externes vont générer la dégradation de la planète. Eh ben, je peux vous assurer, je l'ai fait moi-même il y a 15 jours, 3 semaines.
C'est un jeu pédagogique, en gros.
J'ai appris plein de trucs que je ne soupçonnais pas. J'ai enfin compris pourquoi, à mon niveau individuel, je pouvais agir, alors que j'avais un doute, quand même, pour être honnête. Et donc, on le fait passer à tous les salariés. Et je pense que la prise de conscience pourrait résoudre une partie du sujet de « on n'est pas assez en responsabilité pour faire changer les choses », parce que ce sera un mouvement collectif.
Merci à tous les deux d'être venus dans ce studio de France Inter. 13h45.
France Inter, le 13-14.
Dans 10 minutes, le vif de l'histoire. Bonjour Jean Lebrun.
Bonjour Bruno.
Les États-Unis réactivent un mécanisme de la Seconde Guerre mondiale pour aider l'Ukraine, le pré-bail.
Le pré-bail aux industries d'armement dont il était question il y a un instant.
Et qui avait servi à Churchill et à
Roosevelt.
Ok, vous nous détaillerez, il y a un autre nom, je crois, dans votre chronique. Vous nous expliquerez. Avant cela, le feuilleton, les auteurs en lice pour le prix du Livre Inter avec Eva Béton. Et tout de suite, c'est une chanson. Bonjour Frédéric Pommier.
Bonjour Bruno.
Félicitations d'abord. Votre invité d'hier a gagné, Alizée Cornet, en
2-7.
Absolument. Aujourd'hui, un homme qui s'intéresse à l'Europe, à votre micro, Laurent Godet, prix Goncourt 2004, romancier, dramaturge. Sa pièce « Nous, l'Europe, banquet des peuples » se joue jusqu'à dimanche au Théâtre de l'Atelier à Paris.
Une vaste fresque historique et politique annonce le programme, évoquant un banquet festif qui réunit 12 acteurs, performeurs et chanteurs venus de toute l'Europe. Laurent Godet m'a d'ailleurs parlé de plusieurs chanteur, car il écoute pas mal de chansons, pas mal de musique.
J'aime bien la musique pour me mettre dans un état d'écriture, pas pour écrire après. Comme un point de démarrage, en fait.
Une mise en condition.
Oui, le rythme, l'ambiance. C'est une ambiance au sens large, ça peut être une ambiance due à la tonalité de la musique, mais c'est surtout parfois une ambiance d'énergie intérieure, de se mettre soi dans la même énergie que le morceau qu'on écoute, parce que c'est cette énergie-là qui était importante pour l'écriture.
Est-ce que vous avez des exemples ?
Oui, je me souviens d'une pièce de théâtre sur l'Algérie pour laquelle j'avais un petit rituel, c'est que j'écoutais, avant de me mettre à l'écriture, la chanson « Denis a » de Manu Chao, qui est elle-même sur l'Algérie. Et j'adorais cette chanson pour son rythme, justement. Et puis, il y a un livre que j'ai écrit sur Port-au-Prince, qui pour moi correspondait exactement à l'énergie qu'il y a dans la chanson « Cinderman » de Nina Simone. Là aussi, quelque chose d'extrêmement trépidant, frénétique, et qui me mettait bien dans l'ambiance haïtienne dont j'avais envie.
Elle est gauloise au petit vin blanc, elle est contre-gouvernement. Elle est profite des religions, elle est pop putain du pognon. Elle est vent du nord ou d'ouest, elle est vent du sud ou de l'est. Elle est sans abri à la rue, elle est toujours peine perdue. Elle est gitane, elle est profane, elle est con, la gauloise plane. Elle est toujours fumeuse de joint, elle dort dans les gares en chemin. Elle est solidaire au combat, elle est Varsovie, Messina. Elle est pas banquière pour un sou, elle est pas botte au garde à vous. Elle est sans abri, sans frontières, elle est contre totalitaire. Elle est je t'emmerde avec ta thune, elle est vas-y resserre une brune. Elle est ma gueule de Picasso, elle est tous mes potes au pinceau. Kusturica, Sarajevo, elle est pas loin la Gestapo. Mon européenne c'est pas la Bruxelles, mon européenne c'est pas Genève, c'est pas la thune.
Ça c'est la voix de Damien XVI que Laurent Godet a choisi qu'on écoute, Frédéric.
Avec sa chanson Mon Européenne, sortie il y a 5 ans sur son album Lulu. À l'époque, Laurent Godet avait déjà écrit sa pièce de théâtre. Et il perçoit, ça et là, quelques similitudes entre sa démarche et celle de Damien XVI.
Il parle d'Europe, ce qui est assez courageux, parce que c'est pas forcément le sujet le plus sexy pour une chanson, pour un roman, pour un texte. Il le fait à sa manière, avec ses opinions à lui, avec fièvre, avec rage, avec cette espèce de désir fort de célébrer et de maudire un certain nombre de choses. Et c'est vrai qu'en s'emparant du sujet de l'Union européenne, j'ai eu moi aussi envie d'être parfois dans la célébration, parfois dans l'anathème, parce qu'il y a des choses qui sont horripilantes. puis à un rythme, je défie quiconque de ne pas bouger au bout d'un certain moment sur cette chanson. En plus, c'est super bien écrit. Franchement, je trouve qu'il y a une vraie qualité de plume. Et puis, il y a quelque chose qui se trouve à la fois dans le texte, entre ce mélange de célébration et de malédiction ou d'anathème, et que je retrouve aussi dans sa voix. C'est-à-dire que, comme souvent, il fait un premier tour, si je puis dire, avec une voix douce, que je trouve très belle. Et puis ensuite, la deuxième moitié de la chanson, on est dans le pogo, ça renvoie, on est dans une version punk de ce qu'il a d'abord esquissé. J'aime beaucoup ce mélange, je le trouve très riche. Cette chanson-là, elle vous met dans quel état ?
Elle me met dans un état de muscle, qui est un état dont j'ai très souvent besoin pour écrire. Je dois être plus punk que je n'en ai l'air, j'ai l'air d'un gentil garçon, mais c'est vrai que dans l'écriture, j'aime bien atteindre cet état-là. Il y a quelque chose d'épique dans sa chanson, et moi c'est quelque chose qui m'intéresse toujours, parce que ça sort de la banalité. Et moi j'aime beaucoup les paroles de colère, je crois que ça fait des très beaux poèmes, et des très belles chansons.
Mon Européenne, Damien XVI, c'était donc Frédéric, le choix de Laurent Godet.
Dont on peut voir actuellement la pièce « Nous, l'Europe, banquet des peuples » au Théâtre de l'Atelier à Paris, dans une mise en scène de Roland Osé jusqu'à la fin de la semaine.
À demain.
À demain.
Les 10 auteurs en course pour le prix du livre Inter au micro d'Eva Bétan, c'est notre feuilleton pour les 2 semaines à venir. Aujourd'hui, Eva, vous rencontrez Julia Deck, autrice aux éditions de Minuit de Monument National.
Le monument national du titre est un homme. Que dis-je un homme ? Une star, une immense star vieillissante. D'ailleurs, le grand événement à venir sera ses 70 ans. Il vit dans une grande demeure avec sa beaucoup plus jeune épouse, sa domesticité et la narratrice, leur fille de 7 ans, adoptée au loin. Vous pensez, ah bah oui. Oui, effectivement, c'est la matière de Closer publiée aux éditions de Minuit. Et l'écrivaine va faire de la littérature avec, va faire des télescopages, des rencontres, rambouiller le Blanc-Mesnil, les stars et même les Macron, voisines avec les habitants du 9-3 et les Gilets jaunes. C'est énorme, mais c'est raconté d'une écriture sobre, plus moqueuse que méchante. Au fond, c'est la tradition du roman français d'observer la société. Mais vous, vous ne pouvez pas vous empêcher, Julia Deck, de le faire en riant.
Pourquoi est-ce qu'on est intéressé par les couvertures de Closer ou de Paris Match quand bien même on n'achète pas ces journaux? Pourquoi est-ce que on retient toutes sortes d'informations sur les people? À mon sens, c'est bien qu'ils jouent le rôle d'une mythologie contemporaine. On a aussi besoin d'avoir des idoles, des modèles, ne serait-ce que pour s'en démarquer. Et donc j'ai voulu traiter ce monde-là dans un genre littéraire et ça passe par une forme d'ironie, oui, mais j'espère une forme d'ironie pas trop marquée, parce que pour moi, il y a forcément de la tendresse pour tous les personnages, sinon on ne peut pas les faire exister.
Alors vous faites se télescoper plusieurs univers, et vont même arriver les Macron. L'anniversaire, c'est quand même le grand événement, je vais vous lire un extrait, puis on en parlera. Brigitte avait une idée. Elle avait consulté le compte Instagram d'Ambre et trouvé spécialement sympathique ses publications de l'été dernier lors de notre pool party. Pourquoi ne pas inviter à la fête nos amis du 9-3 ? Elle pensait notamment à Mathias Doucet, figure des Gilets jaunes. Ce serait une occasion conviviale de s'entretenir avec lui. Emmanuel, d'autre part, confia Brigitte sotto voce, n'avait plus tant l'occasion de fréquenter des jeunes hommes issus de la diversité depuis l'affaire Benalla. Ce serait pour lui une joyeuse surprise qu'Abdoul et son ami Brahim participent au dîner.
J'avais pas prévu d'introduire le réel contemporain de manière aussi frontale. Au début du projet, sont très vite arrivés les Gilets jaunes parce que il s'agit aussi d'une forme de crise sociale, de fracture sociale. Et il me semblait que ce mouvement était tellement important que même si le roman était publié quelques années plus tard, il y aurait toujours une actualité marquante pour le lecteur. Et puis est apparu le confinement. Je me suis dit là encore, événement marquant pour tout le monde. Mes personnages sont confinés à un moment du livre. Et on n'est évidemment pas confinés de la même façon quand on vit dans un château que quand on vit dans une tour du 9-3. Et puis bah, tout ça a entraîné finalement la présence des Macron, qui sont eux-mêmes de très très bons personnages people, enfin qui se constituent comme tels. Et finalement ça s'est fait assez naturellement, un peu comme au 19e, la fiction mélangeait volontiers les personnages réels et les personnages fictifs.
L'humour, c'est plus fréquent finalement dans les films que dans la littérature, une forme de comédie.
Alors pour ce livre-ci, je dirais que j'avais deux références filmiques un peu antagonistes. J'ai beaucoup pensé à Downton Abbey, donc cette série qui met en scène les propriétaires d'un grand manoir anglais avec tous leurs domestiques, où tout le monde reste bien à sa place. Et j'ai aussi pensé au film coréen qui a eu la Palme d'Or, Parasite, où là, les gens de maison prennent le pouvoir de manière extrêmement offensive. Je ne les ai pas revus, mais ça m'a servi un petit peu de guide.
Votre ligne, elle passe aussi par l'écriture. Il n'y a pas une écriture minuit, mais c'est jamais des gros pavés avec beaucoup d'adjectifs. Quelle est cette économie d'écriture qui génère quand même le sourire ?
Alors, c'est une économie par défaut, parce que j'ai toujours le fantasme que je vais réussir à écrire un pavé. Et les premières versions, elles font à peu près le double du livre qui est finalement publié. Ce qu'il y a, c'est que quand je me relis, je trouve qu'il y a des mots en trop, je resserre. Je crois que Jean Echenoz disait qu'écrire, c'était un peu comme sculpter de l'eau. Je trouve que c'est une très belle image.
On écrit à la gomme, disent d'autres auteurs. Julia Deck avec Eva Bétan pour Monument National aux éditions de Minuit. Demain, Philippe Janada au printemps des monstres et les entretiens sont à réécouter en longueur sur franceinter.fr.
France Inter. Le 13-14.
Les livres de l'histoire portent particulièrement bien son nom aujourd'hui. Un mécanisme datant de la Seconde Guerre mondiale est réactivé par les États-Unis pour aider les Ukrainiens à combattre la Russie. Le prêt-bail, c'est un des instruments mis en avant dans l'énorme investissement américain ces dernières semaines, Jean Lebrun.
Dès avant le déclenchement de l'invasion de l'Ukraine par Poutine, Washington avait accordé une aide d'1 milliard de dollars. 4 autres milliards ont suivi depuis 3 mois. Mais là, il s'agit de 33 milliards, on parle de 40 aussi, avancés sur un échéancier long. L'Union européenne participe aussi, mais pour 1 milliard seulement. Alors j'arrête avec ces chiffres qui donnent le tournis. Les contributions d'ordre militaire y sont majoritaires, correspondent d'abord à l'envoi de matériel. Il s'agit par exemple de permettre aux Ukrainiens de retrouver tout de suite un peu de maîtrise du ciel.
Et donc le mécanisme financier imite celui qui avait été mis en place en 1941 par les États-Unis pour aider le Royaume-Uni et son empire, qui était alors bien seul.
Le prêt-bail est né du cerveau fertile de
Churchill.
Voilà. Fin 40, il est en grande difficulté. Néanmoins, il sait que Roosevelt cherche tous les moyens de le soutenir, mais sans pouvoir afficher d'intention belliciste. À l'automne 40, le président américain est candidat à sa réélection, alors il dissimule aux électeurs qu'il est sur le sentier de la guerre. Mais en novembre 40, il est réélu et le premier ministre britannique sent le moment favorable pour ferrer son partenaire à qui il envoie un très long mémorandum. Il suggère des possibilités de faire parvenir de l'aide. Non, enfin, il dit plutôt « Ce n'est pas un appel au secours, c'est un relevé des actions communes que nous pourrions mener puisque nous avons le même but, la défaite des dictatures. » Roosevelt, en croisière sur un bateau militaire, lit le courrier de Churchill sur le pont. Il médite pendant 2 jours, revient avec la solution qu'il va présenter ainsi aux Américains, dont vous savez qu'ils habitent souvent des maisons de banlieue. « Imaginez, dit-il, qu'il y a le feu chez votre voisin. C'est vous seul qui détenez la lance à incendie indispensable. Vous allez la prêter au voisin, c'est votre intérêt à tous deux. Bah, il remboursera quand il pourra. » Et en effet, le Royaume-Uni ne finira de rembourser qu'en 2006.
2006.
Pour Churchill, le prêt-bail, c'est un tournant essentiel du conflit à l'égal de la bataille de France de 40 ou de l'échec allemand dans la bataille d'Angleterre.
Le prêt-bail qui est signé en mars 41, l'entrée en guerre directe des États-Unis survient 9 mois plus tard, Pearl Harbor. Entre-temps, Hitler a envahi l'URSS en juin.
Et ce sera posé la question de l'extension du prêt-bail à Moscou, car le prêt-bail va être étendu à l'Union soviétique. C'est une question qui n'apparaît guère dans les reconstitutions historiques de Poutine. La grande guerre patriotique de Staline aurait-elle pu être gagnée sans le soutien américain ? En décembre 1941, le général de Gaulle, qui soit dit en passant, bénéficia lui aussi du mécanisme, observait que la guerre serait gagnée par les États-Unis car leur structure économique était la plus capable de tenir dans la durée.
Alors le prêt-bail, c'est le financement maintenant pour un remboursement plus tard. Mais quand il s'agit de matériel déjà existant, il faut qu'on soit livré très vite.
Oui, les questions de logistique, c'est absolument essentiel. L'accès à l'Ukraine, par exemple, est difficile. Écartement des rails différents, état des transformateurs électriques ciblés par l'artillerie russe, les ports restants à l'accès miné pourront-ils devenir accessibles ? Les chars Abrams, je vous pose des questions prosaïques, que pourrait fournir l'armée américaine ? Est-ce qu'ils sont pas trop lourds pour tous les ponts d'Ukraine ? En 42-44, l'URSS, le plus vaste pays du monde, avait la chance d'être si grand qu'on pouvait mettre hors de portée beaucoup de lieux de production, et le prébail a servi d'ailleurs à appuyer ces nouvelles localisations.
Et le prébail, dites-vous, a même concerné le goulag?
Mais oui, parce que le goulag, il était extrêmement étendu. Aux limites du goulag existait une terre concentrationnaire aux dimensions infinies, c'était la Kolyma. Le grand écrivain déporté Chalamov raconte, sur un mode qui finit par devenir comique, l'arrivée d'un envoyé spécial américain par la route arctique, le vice-président de Roosevelt, Henry Wallace, a en effet été en personne dans la Kolyma. Il a fallu tout bouleverser pour qu'il ne s'aperçoive de rien. Et en effet, il est revenu enchanté par les Soviétiques.
Et depuis, aucune trace du prébail dans l'histoire officielle russe.
Ni non plus du vice-président Wallace, considéré comme trop idéaliste et trop pro-communiste dans l'histoire américaine.
Jean Lebrun, le vif de l'histoire. Bonjour Mathieu Vidard.
Oui Bruno, bonjour.
La Terre au carré, dites-moi, quel est le programme?
Eh bien, nous allons plonger aux origines de l'humanité.
À tout de suite.